qu'à cela ne tienne, Louise Weiss se présente aux élections à Paris. Bien sûr, cette candidature est officieuse, mais elle demande à ses amis d'installer 36 bureaux de vote informels à travers la ville. Ce sont dans les faits des tables tenues par quelques militantes, où des boîtes à chapeaux font office d'urne. À chaque fois que la police trouve des militantes, elle les disperse, mais celles-ci trouvent refuge dans des cafés ou sous des portes cochères, avec la complicité des cafetiers et des concierges sensibles à leur cause. Ce jeu de chat et de souris lasse la maréchaussée qui tente d'arrêter les militantes. Louise Weiss commande l'offensive contre les forces de l'ordre en faisant voler la poudre. Non, les suffragistes n'ont pas tiré sur les policiers. Elles leur ont lancé leur poudre de riz à la figure, c'est-à-dire le contenu de leur poudrier. Les policiers à la mine enfarinée arrêtent enfin Louise Weiss qui finit dans une cellule de commissariat où s'entassent des prostituées et des pochetrons. Ce n'est pas la faune qu'elle a l'habitude de fréquenter, mais voilà ce qui arrive quand on dérange l'ordre public. Porte-couche de l'entre-gens, des relations haut placées, Louise ne reste pas longtemps en cellule. On l'emmène vite dans le bureau du préfet de police de Paris qui l'a pris, je le cite, de mettre fin à ses incongruités sur la voie publique. Louise est contente, elle a fait parler d'elle, et en plus, elle a récolté 16 000 voix au municipal. Des voix qui ne comptent pour rien, mais qui montrent que les temps changent. Dans le fond, Louise aime qu'on parle d'elle. Les combats politiques et sa notoriété personnelle sont les deux faces d'une même médaille. Elle continue donc ses actions comme un happening à l'hippodrome de Longchamp. Louise Weiss rêve en réalité d'une carrière politique, mais aucune porte ne s'ouvre pour elle. C'est trop tôt. De toute façon, en 1939, la guerre recommence. Louise approche le président du conseil, Édouard Daladier, pour lui proposer l'aide de femmes volontaires dans le conflit. Et Daladier l'invite à organiser des collectes. En tant que femme, elle se rend compte qu'elle est limitée aux actions caritatives et à la bienfaisance si elle se cantonne aux actions officielles. Curieusement, Louise Weiss ne profite pas du contexte de l'occupation pour passer dans l'illégalité et dans la résistance, alors même que son jeune frère, moins engagé politiquement qu'elle, devient résistant. Il faut croire que rejoindre l'armée des ombres ne l'attire guère. Pour elle, il n'y a de combat que dans la lumière. Elle poursuit donc ses œuvres caritatives, voyage aux États-Unis et découvre à son retour qu'elle est inscrite sur les registres des juifs à déporter. Elle fait des pieds et des mains auprès de ses relations influentes pour obtenir de faux papiers et faire rayer son nom des registres. Louise Weiss se réfugie dans la littérature pour critiquer le régime de Vichy, mais honnêtement, il n'y a plus de coup d'éclat. L'autorité de l'armée d'occupation a écorné son audace. La fin de la guerre récompense les plus avisés et les résistants. Le frère de Louise, celui qui était entré dans la résistance, se voit ouvrir les portes du monde politique. Pour elle, en revanche, il n'y a rien. Personne ne l'attend. Elle reprend donc ses activités de journaliste et couvre notamment le procès de Nuremberg où sont jugés les dignitaires nazis par une commission internationale. Pendant les 15 années qui suivent, elle développe la polémologie, la science de la compréhension des conflits avec le sociologue Gaston Boutoul. Elle donne aussi des conférences sur plusieurs continents et ne manque jamais une occasion de se faire remarquer en arrivant avec sa deux chevaux dont elle a fait son accessoire iconique. Elle crée aussi sa propre fondation qui promeut la paix et la construction européenne. Une construction qui se fait sans elle, entre hommes. Grâce à Robert Schuman, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, la CECA, pose les premiers jalons de notre Europe moderne qui va continuer à se bâtir dans les années à venir jusqu'à la création de son Parlement en 1962. Pendant les années 1960-1970, l'Allemagne de l'Ouest se relève de ses ruines. La France, sous l'égide du général de Gaulle, redevient une grande puissance pionnière dans des secteurs de pointe comme l'aéronautique et le nucléaire. De Gaulle n'est pas favorable à l'avènement de l'Europe, mais ne mène aucune politique de fond pour l'empêcher d'advenir. Le général n'est pas le seul à croire qu'une institution supranationale telle qu'elle se dessine nuira à la souveraineté de la France. En 1978, le maire de Paris, Jacques Chirac, alors hospitalisé à Cochin suite à un accident de la route, diffuse un communiqué de presse contre l'Europe. C'est l'appel de Cochin que ses conseillers Pierre Juillet et Marie-France Garraud l'ont aidé à rédiger. L'appel de Cochin dénonce le fédéralisme européen, le parti de l'étranger. Chirac invite à défendre le souverainisme français avec la liste de son parti, le RPR. Cette position est aux antipodes de celle de Valéry Giscard d'Estaing, beaucoup plus européiste, et qui compte sur sa liste Simone Veil, connue pour avoir porté la loi sur l'IVG. À cette date, Louise Weiss est une vieille dame de presque 86 ans. L'ancienne militante féministe n'a pas soutenu Simone Veil. Elle est contre l'IVG parce que celle-ci déresponsabiliserait les hommes. Mais Louise rêve toujours de lumière et de politique. Alors quand le RPR de Chirac lui propose une place sur sa liste pour les élections européennes, même si le parti est alors souverainiste, elle accepte. Voilà comment elle est élue en 1979, députée européenne. En tant que doyenne, elle ouvre la séance du 17 juillet par un discours. C'est l'acmé de son existence. Après le vote interne pour la présidence, elle cède sa place à la nouvelle présidente du Parlement européen, Simone Veil, femme politique engagée, solide, rescapée des camps, qui est perçue en Allemagne et en France comme un symbole de réconciliation européenne. En lui serrant la main, Louise Weiss félicite la « jeunette », petite pique malvenue et pas très féministe. Pour l'historien Yves de Necher, la doyenne était un peu fâchée de partager les honneurs de cette première séance avec une autre femme française. Pendant ce mandat européen, Jacques Chirac organise le système du tourniquet pour les élus de sa liste. Chacun reste un an au Parlement et laisse ensuite sa place à un suppléant pour revenir s'occuper des affaires françaises. Louise refuse de se plier à cette règle. Elle veut exercer cette carrière politique dont elle a tant rêvé et puis aucun mandat ne l'attend en France. Elle meurt en 1983 sans avoir rendu son siège de députée. Louise Weiss est devenue l'une des figures de la construction européenne. L'immeuble où siège le Parlement européen à Strasbourg porte d'ailleurs son nom. Au crépuscule de sa vie, elle avait compris que l'Europe économique avait du sens pour l'industrie et l'agriculture, mais les taux d'abstention élevés aux élections de 79 lui ont prouvé que les Européens n'investissaient pas cette nouvelle identité supranationale. Elle s'en inquiétait. Et pourtant, dans son célèbre discours du 17 juillet 1979, elle soulignait quelque chose d'important. L'Europe ne retrouvera son rayonnement qu'en rallumant les phares de la conscience, de la vie et du droit. Les élections européennes de 2024 nous montreront si 45 ans plus tard, les Européens se sentent européens ou non.
Au cœur de l'histoire, sur Europe 1.
De 15h à 16h, Virginie Giraud.
Vous écoutez toujours au cœur de l'histoire sur Europe 1. Aujourd'hui, on parle de la construction européenne. Après le grand récit sur Louise Weiss, la mère de l'Europe, je reçois l'historien Laurent Varlouzet, avec qui nous allons faire le point sur les étapes de la construction européenne. Bonjour Laurent Varlouzet.
Bonjour Virginie Giraud.
Pour commencer, je voudrais vous poser une question reliée aux taux d'abstention qui ont toujours été extrêmement élevés pendant les élections européennes, souvent plus de la moitié des électeurs ne viennent pas. Pourquoi est-ce qu'on s'intéresse si peu à la construction européenne et pourquoi faut-il s'y intéresser quand on vit en Europe ?
Alors, les taux d'abstention ont été élevés. Là, ils ont tendance à diminuer depuis 2014. La participation aux élections européennes augmente un petit peu et elle se rapproche de beaucoup d'autres élections nationales, pas les présidentielles, mais elle se rapproche d'autres élections. Donc, il y a un peu moins de désintérêt. Et moi, je pense que c'est intéressant, c'est vraiment même fondamental de s'y intéresser pour trois raisons. D'abord, parce que c'est une aventure vraiment très originale, très incroyable. C'est la première fois que des États, parmi les plus puissants du monde, ont choisi de bâtir une paix durable en exerçant en commun des pans de leur souveraineté. Et donc l'Europe, voilà, c'est un moyen, c'est un peu une banalité de dire ça, mais d'essayer de bâtir un autre monde qui soit pas bâti sur la loi de la jungle. Pendant longtemps, quand je disais ça à mes étudiants, on me prenait pour un vieux barbon en estimant que les guerres étaient impossibles en Europe, mais on a bien vu avec la guerre en Ukraine que tout le monde ne pense pas comme ça. Et donc c'est pour avoir un monde qui soit différent du monde de Poutine, en fait, qu'on a fait l'Europe. Et puis bon, deux autres raisons plus prosaïques. L'Europe, c'est fondamental dans notre quotidien. C'est à Bruxelles, à Strasbourg, qu'on prend des décisions sur les pesticides, sur les voitures électriques, sur le prix des forfaits mobiles à l'étranger. Donc on les prend en commun, hein, nous Français avec nos partenaires européens, donc qu'on l'aime ou pas, on est obligé de s'y intéresser. Et puis la troisième raison, c'est que aujourd'hui la France, c'est 1% de la population mondiale, c'est moins de 3% de la richesse mondiale, et donc on estime, enfin beaucoup de Français ont estimé que voilà, il valait mieux essayer de gérer en commun certains défis mondiaux, la guerre en Ukraine, la mondialisation, le changement climatique, avec nos partenaires européens plutôt que tout seul.
Venons-en à la construction européenne. On considère souvent que son acte de naissance, c'est le 9 mai 1950, avec la déclaration du ministre des Affaires étrangères de l'époque, Robert Schuman. Vous pouvez nous parler de cet événement ?
Oui, alors c'est un événement qui est célébré aujourd'hui, qui va être célébré bientôt le 9 mai. Tous les 9 mai, on célèbre la fête de l'Europe. Alors pourquoi ? La déclaration Schuman, en fait, c'était un texte qui avait été prononcé donc 5 années et un jour après la fin de la guerre, la troisième guerre franco-allemande, pour essayer justement de trouver une solution un peu définitive à ces conflits franco-allemands. Et ce qu'a fait Schuman et Monnet, Jean Monnet, qui a rédigé la déclaration, c'est de proposer un système nouveau. Donc la France à l'époque était confrontée à un enjeu, c'était la restauration de l'Allemagne. L'Allemagne était occupée, elle venait juste de retrouver une partie de sa souveraineté, et les Américains, les Britanniques, le 10 mai, avaient prévu, dans une grande réunion interalliée, de lui redonner un peu plus de pouvoir. Parce qu'on était dans le contexte de la guerre froide, face à Staline, voilà, il y paraissait important de restaurer une partie de la souveraineté allemande. Et les Français se sont dit, certains Français, donc Robert Schuman, Jean Monnet, se sont dit, bon, on va plutôt européaniser le problème, comme ça on sera sûr de pouvoir contrôler l'Allemagne et d'avoir une solution à long terme. Et donc la déclaration Schuman, elle propose deux choses nouvelles. Un, la réconciliation franco-allemande, ce qui est quand même extraordinaire, 5 années et un jour après la fin de la guerre. Et puis deux, des institutions fortes, en partie fédérales, pas complètement fédérales, mais en partie fédérales. Et c'est ce qui différencie la construction européenne de l'ONU, par exemple.
Alors venons-en à la CECA, qui est un petit peu le premier pas vers la construction européenne. C'est la Communauté européenne du charbon et de l'acier. Qu'est-ce que ça signifie à l'époque ? Qu'est-ce qu'elle permet de faire ?
Alors, elle permet beaucoup. Donc, elle est issue de cette fameuse déclaration Schuman et qui porte le nom de Robert Schuman, qui l'a portée, qui était le ministre des Affaires étrangères français. Mais elle a été rédigée par un personnage assez original qui s'appelle Jean Monnet, qui était commissaire général au plan, qui est véritablement un aventurier. Il quitte l'école à 16 ans, il part à Londres, ensuite au Canada pour vendre du cognac. Il est banquier d'affaires entre les deux guerres et il passe les deux guerres mondiales à s'occuper de la coopération entre la France, les Britanniques et les Américains. Donc, Schuman, c'est l'homme de la réconciliation franco-allemande et Monnet, c'est plus l'homme de l'économie, des institutions, celui qui essaie qui va trouver la solution pratique pour rapprocher les deux pays de manière durable. Et ce que propose donc ce qu'il fait avec la CECA, la Communauté européenne du charbon et de l'acier, c'est une espèce d'organisation pour réconcilier les vainqueurs, donc la France, les pays du Benelux, et puis les vaincus, l'Allemagne et l'Italie, autour d'une gestion en commun. Alors, c'est un problème assez technique, le charbon et l'acier, mais l'idée, c'est, à travers ces premiers secteurs, qui sont quand même symboliques, parce qu'évidemment, c'est avec le charbon, l'acier qu'on fait la guerre, à travers ces secteurs symboliques, de trouver une organisation du continent qui permettra de pacifier les conflits qui sont évidemment inévitables entre ces puissants voisins que sont la France, l'Allemagne et puis les autres pays de la communauté européenne.
Donc on a l'impression que ce qui va souder l'Europe, finalement, ce sont les aspects économiques, l'interdépendance que l'on va créer entre les différents pays et pas une communauté de valeurs. Est-ce que ça peut marcher ?
Alors si, il y a à la fois, il y a les trois. Il y a l'Europe, l'économie, le politique et les valeurs. Pour Schuman, il le dit clairement dans la déclaration Schuman, l'idée c'est de créer une fédération. Il le dit deux fois. Donc on utilise l'économie pour rapprocher les peuples et donc créer une communauté politique. Et il y a une communauté de valeurs minimale, ce sont les valeurs de la démocratie libérale. Parce que vous pouvez pas, si vous êtes une dictature, vous voulez pas partager le pouvoir en interne, donc vous allez certainement pas le partager en externe. Alors c'est pour ça que dans les communautés européennes, on associe que des démocraties libérales, alors que dans d'autres organisations, par exemple l'OTAN, il y a des dictatures dès le départ, par exemple le Portugal de Salazar.
Alors, la construction européenne tente de franchir un pas avec la communauté européenne de la défense, c'est-à-dire une sorte de mise en commun de la défense des différents pays à partir de 1954, mais le projet échoue. Pourquoi ?
Oui, alors c'est un projet qui paraît assez fou, mais là il faut le comprendre toujours en se remémorant la situation de l'époque. Là, vous êtes historienne, vous savez bien, il faut se replacer dans l'époque. C'était en 1950, juste après que la déclaration Schuman, guerre de Corée. La Corée du Nord envahit la Corée du Sud. Et à l'époque, ça paraît un peu étrange, parce que la guerre de Corée en France, tout le monde a oublié, même si elle a fait plus de 3 millions de morts. Mais à l'époque, on pensait vraiment qu'il y avait un risque que cette guerre de Corée se reproduise en Europe, que Staline lance une offensive, parce que les troupes tout simplement soviétiques étaient beaucoup plus nombreuses que les troupes occidentales, et puis l'URSS en plus avait la bombe atomique depuis 49. Donc il y avait vraiment une espèce de phobie anticommuniste, et donc l'urgence, c'était de réarmer l'Allemagne. Et la solution qu'ont trouvé les pro-européens en France, c'était d'européaniser le problème en créant une armée allemande intégrée dans une armée européenne, dans laquelle, du coup, il faudrait mettre aussi l'armée française. Alors c'est un projet un peu précipité et finalement qui échoue aussi parce que Staline meurt en 53, donc l'URSS existe toujours mais elle est moins agressive, donc voilà, l'urgence de faire une armée européenne disparaît.
Et arrive 1957 avec le traité de Rome. Alors on a tous un peu en tête ce nom, le traité de Rome, mais je pense sincèrement qu'on ne sait pas ce qu'il y a à l'intérieur.
Effectivement, le traité de Rome, alors c'est important aujourd'hui pour nous en tant que citoyens, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas l'Europe, on a des droits en fait et des devoirs en tant que citoyen européen, et ça ils sont issus d'un traité bon, qui s'appelle le traité de Lisbonne, mais ce traité de Lisbonne il reprend en grande partie le traité de Rome de 57, hein, donc d'où l'importance de l'histoire, hein, vous êtes bien placé pour le savoir, donc beaucoup des droits et du droit européen aujourd'hui est issu d'articles rédigés en 56-57 dans ce traité de Rome qui crée la communauté économique européenne. Pourquoi est-ce qu'elle a réussi? Bah parce que c'était un équilibre entre libéralisme et protectionnisme, hein. Bon, nous on a obtenu la PAC par exemple, la politique agricole commune dans le traité de Rome. Et puis le traité de Rome c'est aussi un compromis entre les fédéralistes un petit peu à la Monnet Schumann et puis les intérêts étatiques à la De Gaulle. C'est De Gaulle voulait pas du traité de Rome au départ, enfin il s'était pas exprimé contre, mais c'était pas un grand européen, mais une fois qu'il arrive au pouvoir, il applique le traité de Rome parce qu'il estime que l'accord est assez favorable à la France.
Et puis petit à petit, cette communauté européenne va s'élargir. On va commencer avec 6 membres, hein, si je ne m'abuse. Oui. Et puis petit à petit, on s'ouvre en 73, en 80, en 86. Pourquoi s'élargir à ce point? Est-ce qu'on peut s'élargir indéfiniment?
Alors, pourquoi s'élargir? Déjà parce qu'on toque à la porte de l'Europe. Au départ, c'était les Britanniques. Alors, ce qui était intéressant, c'est que les Britanniques, au départ, on voulait les associer à la construction européenne. Hein. Monet, bon, je l'ai dit, était très anglophile. Mais les Britanniques, eux, soit ne voulaient pas, soit on posait tellement de conditions qu'en fait ça pervertissait complètement l'intention initiale. Donc finalement ils se sont exclus eux-mêmes des débuts de la construction européenne et puis après quand ils ont vu que ça fonctionnait, ils ont voulu y revenir. Au début les Britanniques, ce qu'ils voulaient c'était juste une zone de libre-échange très générale, ça avantageait pas du tout la France, donc c'est pour ça que De Gaulle a rejeté la zone de libre-échange et a préféré le traité de Rome. Donc finalement les Britanniques on les a pris et puis après on s'est étendu à tous les autres pays européens à partir du moment où ils sont devenus des démocraties libérales. Donc les pays du Sud, Espagne, Portugal, Grèce sont redevenus des démocraties libérales dans les années 70, on les a acceptés progressivement, idem pour les pays d'Europe centrale et orientale, après la chute du mur. Mais vous avez raison, Virginie, c'est vrai, la frontière est mal définie, donc du coup, c'est difficile de savoir comment définir l'Europe quand on ne connaît pas ses frontières.
Et puis arrive l'effondrement de l'URSS progressif et le traité de Maastricht qui, moi, m'évoque l'enfance, mais avec des zones de flou. Vous nous rappelez ce qu'est le traité de Maastricht?
Oui, alors le traité de Maastricht, c'est un événement important. Je pense que c'est aussi pour nous, moi je suis né en 78, peut-être la première fois qu'on parlait autant d'Europe dans les médias en fait. Alors Maastricht, voilà, a remplacé globalement la communauté européenne par une union européenne. Donc,
c'est quoi la différence?
Alors la différence c'est que dans communauté économique européenne, il y a économique. Dans union européenne, il n'y a pas économique. Donc ça montre bien qu'il y a une ambition plus politique. On crée une citoyenneté européenne, ce qui fait que voilà, vous, moi, on peut aller s'établir dans n'importe quel pays européen, faire des études, prendre notre retraite au Portugal, hein, comme font beaucoup de Français, librement. Le programme Erasmus aussi est créé juste avant. Et puis, ça nous donne une protection aussi diplomatique à l'étranger. Et puis, c'est à Maastricht aussi qu'on lance le processus qui va aboutir après à l'euro. Donc là, on voit bien que quand on partage une monnaie, qu'on n'est pas uniquement dans l'économie. Puis bon, à Maastricht, on crée aussi une politique étrangère et de sécurité commune, mais ça, c'est un échec assez vite, hein, puisqu'on se dit, voilà, on va faire une diplomatie européenne. Et puis, en 92, éclate la guerre en ex-Yougoslavie, et on est incapable de s'unir, on est incapable d'agir vraiment sur le terrain. Donc là, vous voyez, il y a des linéaments d'Europe puissance, mais qui ne sont pas véritablement réalisés. Mais en tout cas, voilà, Maastricht, c'est vraiment une rupture, d'où après le référendum en France, très disputé, avec une très faible majorité, hein, 51% de oui.
Donc qu'est-ce que ça signifie ce 51%? Que les Français ne se sentent pas très européens dans le fond?
Bah, ça signifie qu'il y a une majorité de Français qui sont favorables à la construction européenne, puis qu'après il y a un nombre important de Français qui sont pas satisfaits de cette construction européenne, soit parce qu'ils n'en veulent pas, donc ça c'est plutôt les extrêmes, extrême droite, extrême gauche, qui ont toujours été, disons, europhobes, anti-européens, soit parce qu'ils ne s'en satisfont pas, ils veulent une Europe, par exemple, plus sociale ou une Europe plus puissance. Là, c'est ça qui s'exprimait en 2005 avec le rejet du traité constitutionnel. Vous aviez une conjonction des europhobes, donc de ceux qui étaient hostiles par principe à la construction européenne, et de ceux qui pouvaient être favorables, mais qui déploraient une Europe trop néolibérale.
Je voudrais qu'on revienne sur le rôle de la France dans la construction européenne. Vous avez évoqué évidemment Jean Monnet, Robert Schuman, qui sont vraiment les parents de l'Europe. La position de De Gaulle, qui est un peu plus nuancée, qui relève du bon gouvernement, il me semble, parce que la nuance c'est plutôt pas mal en général. Est-ce que la France est vraiment moteur de la construction européenne ?
Oui, elle est motrice. Alors après, elle n'est pas toujours influente. Ça dépend des époques. Hein. Aujourd'hui, là, on est en 2024 et on estime qu'il y a vraiment une inflexion vers une Europe un petit peu plus française au cours de la dernière législature. Hein. On parle plus d'Europe sociale, on parle plus d'Europe puissance, mais ça n'a pas toujours été le cas. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a aussi plusieurs Europes promues par la France. Donc une Europe assez fédérale avec Schuman, Monnet, voilà, les pères de l'Europe. Mais aussi une Europe assez volontariste, mais plus interétatique avec De Gaulle. Donc c'est De Gaulle qui a... Si on a l'Union Européenne aujourd'hui, c'est grâce à De Gaulle, parce que c'est lui qui a appliqué le traité de Rome. Peut-être que s'il n'était pas revenu au pouvoir, si la 4ème République avait persisté, s'était enferrée dans la crise, la France n'aurait pas été capable d'appliquer le traité de Rome, et on aurait peut-être eu une zone de libre-échange à la britannique. Et donc De Gaulle représente aussi une sensibilité européenne, une Europe volontariste, mais plus interétatique. Donc vous voyez, il y a plusieurs manières de faire l'Europe qui se confrontent.
Et comment chez la population on peut faire émerger un sentiment européen, c'est-à-dire d'appartenance à l'Europe, de se sentir européen plus que français, espagnol, allemand, italien, parce que finalement on est de chez soi avant d'être d'un plus vaste ensemble.
Oui, je pense pas que l'idée ce soit de faire, enfin ça dépend des gens, effectivement. Si vous êtes vraiment archi-fédéraliste, vous voulez faire apparaître un sentiment européen qui remplace le sentiment national, mais je pense la plupart des Français, bon comme De Gaulle par exemple, mais disons plus généralement sans doute aussi et Emmanuel Macron et ce qu'il représente aujourd'hui, ils veulent plutôt faire apparaître un sentiment européen à côté du sentiment national, comme on peut être, je sais pas, marseillais et français ou breton et français. Alors Delors qui avait été président de la Commission européenne entre 85 et 95 disait on ne tombe pas amoureux d'un grand marché. Et donc il a essayé de doter l'Europe d'éléments un petit peu plus charnels, un drapeau, un hymne, une devise, mais c'est vrai qu'on a du mal à voir ce que c'est qu'être européen, ce qui nous différencie des autres occidentaux. Alors il y a eu tout un travail qui a été fait, on voit que par rapport aux Américains, il y a des petites différences, il n'y a pas la peine de mort chez nous, protection du droit de l'avortement, il y a l'État-providence. Mais c'est vrai qu'ensuite, bon, les Suisses sont pas dans l'Europe, ils sont aussi européens que nous par exemple. Donc vous voyez, c'est difficile d'avoir une vision, une définition parfaite. Bon, en même temps, si on définit ce que c'est qu'être français, c'est aussi difficile d'avoir une vision vraiment duale en blanc et noir. Ce qui est vrai, c'est que on a vu quand même avec la guerre en Ukraine qu'il y avait un sentiment européen qui s'était exprimé avec la solidarité spontanée qui s'est exprimée quand même envers les réfugiés ukrainiens. Donc il y a un espèce de sentiment européen assez confus qui existe, mais qui est moins fort évidemment que le sentiment national.
En quelques mots, est-ce qu'on avance inéluctablement vers une Europe fédérale ?
Non, parce que l'Europe c'est un projet démocratique, et donc si les Français et la majorité des Européens veulent faire une Europe fédérale, on aura une Europe fédérale, mais c'est pas la direction qui est prise actuellement. Donc les élections européennes laissent planer la perspective d'un renforcement des partis plutôt opposés à l'Europe, soit eurosceptiques, soit europhobes. Donc ce qui se profile, c'est plutôt une Europe minimaliste, un petit peu le retour de la zone de libre-échange à la britannique que De Gaulle nous a épargné. Donc voilà, l'Europe sera ce qu'on en fait.
Merci Laurent Varlouzet. Donc j'incite tous ceux qui nous écoutent à aller voter le 9 juin, si vous nous écoutez avant le 9 juin, bien évidemment. Sinon, ce sera la prochaine sans faute. Je rappelle que vos livres Histoire de la construction européenne depuis 1945 est paru aux éditions de La Découverte et Europe contre Europe aux éditions du CNRS. Au cœur de l'histoire, c'est terminé pour aujourd'hui, mais je vous retrouve dès demain pour parler maladie et urbanisme au 19e siècle. Vous allez voir que l'épidémie de choléra de 1832 va vous rappeler des événements de 2020. Mais si vous voulez des récits avant notre rendez-vous de demain, on se retrouve dès maintenant sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pourrez par exemple écouter l'historien Jean-Christophe Courtil nous parler des apports de l'IA pour percer les mystères des papyrus carbonisés d'Herculanum tout près de Pompéi. «
Ne manquez pas notre semaine spéciale sur Europe 1 pour les 80 ans du débarquement. Dès ce week-end d'ailleurs, Pascal Pro, Sophie Davant, Stéphane Bern, Dimitri Pavlenko et toute la rédaction d'Europe 1 célèbrent cet événement historique et vous pouvez découvrir dès maintenant les deux premiers épisodes de la série du podcast Au cœur de l'histoire, spécial débarquement. Ça s'appelle D-Day, 80 ans de célébration. C'est un podcast inédit, réalisé à partir des archives exceptionnelles d'Europe 1 et disponible sur toutes vos plateformes d'écoute, sur le site et l'application Europe 1. Allez, la suite du programme, musique avec Nick Cave, entouré de son groupe fétiche Warren Ellis et les autres Bad Seeds. On écoute leur dernier morceau, Wild God, et juste après, eh bien, on se replonge dans les témoignages de la Libre Antenne.
Once upon a time, a wild God zoomed all through his memory, in which he was into. And he flew out the window with his long trailing hair, and the smoke from the bodies went straight up in the air. He was a wild God searching for what all wild gods are searching for, and he flew through the dying city like a prehistoric bird. He went searching for the girl down on a Jubilee Street, but she died in a bedsit in 1993. So he flew to the top of the world and looked around and said, where are my people? Where are my people to bring your spirit down? Searching for a faraway girl who was basically a mirage that nevertheless loomed large. She would hang under the rail as he blew round the room and make love with a kind of efficient gloom. 'Cause I'm a wild God flying and a wild God swimming, and I'm an old sick God dying and crying and singing.
extrait du nouvel album de Nick Cave and the Bad Seeds. C'est aussi le titre de cet album qui sortira à la fin de l'été. Et côté concert, eh bien, il nous donne rendez-vous le 17 novembre à l'Accor Hotel Arena de Paris. Bonne nuit à vous tous qui nous écoutez si tard ou alors peut-être si tôt, ou vous vous levez peut-être pour aller travailler. En tout cas, pour tous les auditeurs d'Europe 1 qui veillent encore, je vous propose de redécouvrir à présent quelques témoignages de la Libre Antenne. On retrouve tout de suite Olivier Delacroix en nouvelle diffusion.
La Libre Antenne, 22h, 1h sur Europe 1.
Nous accueillons Laura sur l'antenne d'Europe 1. Bonsoir Laura.
Bonsoir.
D'où nous appelez-vous Laura et quel âge avez-vous ?
Alors j'ai 35 ans et je suis en Normandie.
De quoi voulez-vous me parler Laura ?
Du syndrome du nez vide.
C'est la première fois que j'entends parler de ce syndrome, j'espère que vous le pardonnerez. Qu'est-ce que c'est que ce syndrome du nez vide ?
Alors c'est mon petit frère qui a vécu ce syndrome, oui. Comme d'autres personnes en France aujourd'hui dans le monde.
Oui.
En fait c'est un syndrome qui apparaît après une opération quelconque du nez, que ce soit les turbinoplasties, les personnes qui vont se resserrer faire le nez, les personnes qui vont avoir je suis désolée.
Prenez votre temps, hein. Laura, on a tout notre temps. Je sais que c'est la première fois que, en tout cas, l'une des premières fois que vous prenez la parole. On a tout notre temps, vraiment.
Donc en fait, c'est essentiellement pour tout ce qui va être les problèmes de nez de base. Donc
oui.
Ça peut être les nez bouchés, ça peut être les personnes qui vont se refaire faire le nez, tout ce qui va être rhinite à répétition, etc.
Oui. D'accord.
Et suite à ça, il y a des opérations que les ORL proposent.
D'accord.
À la base soigner par radiofréquence, mm-hmm. par d'autres techniques. Mm-hmm. Et en fait, ces techniques donnent dans à peu près 20% des cas le syndrome du nez vide.
D'accord. Alors, nous allons parler de votre petit frère. Comme vous me l'avez dit, les ennuis de santé de Charlie commencent. Charlie, c'est le prénom de votre petit frère. Il commence autour de ses 13 ans, hein, 13 ans plus tôt, plus précisément. À l'époque, il a 17 ans, Charlie. Il est passionné de sport, notamment de boxe, hein, je crois.
Oui, de tous les sports, c'était un grand fan de sport, de tout en fait. Et là, oui, il a voulu essayer la boxe et mm-hmm. il s'est pris un mauvais coup, enfin un coup dans le nez en fait.
D'accord.
Et du coup, suite à ça, c'était le premier jour où il a ressenti son nez bouché à partir de ce jour-là.
Mm-hmm. Alors, ce sont des choses qui arrivent souvent, ça, à la boxe, que l'on puisse prendre, parce qu'on prend hein, des coups obligatoirement, même si je suppose qu'on a des casques de protection, ça fait partie des risques. Il prend un gros coup au nez ce jour-là ?
Bah, pour moi, j'étais là ce jour-là et c'était pas un gros coup.
Oui,
je pense que
oui.
Charlie avait une fragilité au niveau du nez parce que je pense pas que tous les boxeurs aient ce souci de nez bouché. Pas à ma connaissance en tout cas. Donc après, peut-être qu'il avait déjà une fragilité à ce niveau-là et que c'était pas cet endroit qu'il fallait être touché en fait.
Il avait peut-être une fragilité, vous avez raison, mais en tout cas, vous ne l'aviez jamais entendu se plaindre du nez ? D'accord.
Non, pas avant ça, non.
D'accord. Les conséquences de ce coup au nez, c'est que Charlie se retrouve avec le nez bouché. Hein. Dès la première nuit, vous dites que vous êtes aperçu que son nez était complètement bouché lorsqu'il était en position allongée.
Voilà, c'est ça. Ça l'handicapait complètement au niveau de ses journées, parce que du coup, il dormait plus correctement.
Ah, d'accord.
Il était fatigué constamment, parce que du coup, c'est comme si que, mon petit frère le disait, c'est comme si qu'il avait un rhume toute l'année.
Et oui. Oui, on se réveille avec la bouche pâteuse ou sèche.
Voilà.
Et puis, ça nous réveille plusieurs fois dans la nuit, le nez bouché. Hein. C'est quand on a un gros rhume ou... D'accord. Mais là, en fait, ça a duré des jours et des jours, visiblement.
Bah, ça a duré des années.
Des années, d'accord.
Oui, oui.
Ce nez, donc, ne se rétablit pas. Qu'est-ce qu'il fait durant ces années, Charlie, en fait? Il va voir des médecins quand même? Enfin, je suppose que il a 17 ans à l'époque. Durant les années, il va trouver du travail, il va travailler. Que devient-il pendant ces années, Charlie?
Bah, il essaye de vivre avec en se disant que son esprit est bouché. Mmh. Il a essayé une première opération au niveau du nez. Et en fait, ça lui a juste redressé le bord du nez. Mmh. Un jour, mon petit frère m'avait dit que ses cloisons étaient comme un accordéon.
Ah oui.
Tout était devenu détruit, en fait. Et du coup...
Mais a-t-il vu un spécialiste à l'époque?
Oui.
Un vrai spécialiste?
Un ORL qui l'a opéré, mais qui n'a pas redressé le bon endroit, en fait.
Oui, mais parce qu'il ne l'a pas vu ou il a fait une erreur, vous pensez?
Je pense que... Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout si le médecin n'avait pas... En tout cas, il n'avait pas redressé au bon endroit, en tout cas.
D'accord,
ça n'avait rien changé pour Charlie du tout.
D'accord. Première intervention, donc... pour redresser une cloison nasale, et cette intervention ne donne rien.
Voilà.
Bon, et une déviation à cet endroit-là, on sait que ça peut empêcher vraiment de respirer. Hein,
Oui. La respiration, c'est quelque chose qu'on fait à chaque instant. C'est une des choses la plus importante.
Vivre avec le nez bouché, c'est pratiquement un enfer, quoi.
Oui.
Pendant toutes ces années, donc je suppose qu'il cumule de la famille, ça impacte son tempérament, vous voyez des choses changer chez lui?
Pas spécial. Charlie c'est quelqu'un de, il était bienveillant envers les autres, toujours de bonne humeur, à faire la fête. Il était très très joyeux, mais on voyait bien que parfois il était fatigué. De toute façon, il avait un travail, un coup du matin, un coup d'après-midi, donc du coup il devait se reposer quand même beaucoup. Mais sinon, non, sur son moral, non, il était toujours agréable.
Vous dites que donc ça n'impacte pas vraiment son tempérament devant vous. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Charlie? Il fait quoi?
Charlie, il travaille dans un magasin de logistique, préparateur de commandes.
D'accord. Donc c'est du boulot, ça, je suppose, dans la grande distribution?
Oui, c'est du boulot, oui, dans une grande distribution, oui.
D'accord, je crois qu'il s'occupe aussi de... il a deux petites filles, c'est ça?
Oui, deux princesses, oui.
D'accord, il a rencontré une jeune femme à un moment, donc...
Oui, quand il est devenu papa très tôt, à l'âge de 18 ans.
Oui.
Et il a eu ces deux princesses, dont les parents se sont séparés. Il a toujours très très bien assuré son rôle de papa.
D'accord.
Il avait ses filles tous les 15 jours, aux vacances, voilà.
Bon, donc ces problèmes de nez ne s'arrangent pas.
Non.
Quelles conséquences physiques, au-delà de la fatigue, cela a sur lui? Est-ce que
Alors il va être cerné. Excusez-moi, j'ai repris un petit peu.
Les yeux cernés, le teint un peu pâle, blanc.
Voilà, c'est ça, le teint pâle, les yeux cernés, la fatigue constante. En fait, il a cette sensation de ne jamais récupérer, de jamais être en forme.
Oui.
Et pourtant, il nous le montre pas. C'était quand même une force énorme.
Oui.
Et pourtant, Charlie il faisait beaucoup de sport, il mangeait très équilibré, il avait une hygiène parfaite, quoi.
C'était un jeune homme très sain, hein.
Oui, au niveau de l'hygiène de vie, sincèrement, il était... il faisait la fête aussi, hein, comme tous les jeunes.
Oui,
sinon, il faisait très attention à tout. Il avait... tout ça lui a donné aussi des réveils nocturnes. Mm-hmm. C'était compliqué. Mm-hmm.
Je vois aussi qu'il avait des saignements aux gencives et que ses dents se déchaussaient. C'était en lien avec ce nez abîmé?
Pour les médecins disaient que non, mais Charlie pense que oui, c'était pour lui, oui, c'était ça.
Mmh. Alors je crois qu'il a tout essayé, hein, pour respirer par le nez. Essayé tout un tas de choses, non?
Oui, il avait essayé. Il y a eu une fois en 2022 où un spray avait fonctionné pendant une nuit, où il avait eu l'impression d'avoir récupéré énormément, mais ça a duré qu'une nuit.
Qu'une nuit? D'accord.
Oui.
En 2022, il décide de reprendre un rendez-vous chez un ORL au Havre, cette fois-ci. Donc ce médecin confirme bien sa déviation nasale. Il lui indique qu'il est difficile de refaire une seconde septoplastie et qu'il existait peut-être une autre solution, visiblement pratiquée par un de ses collègues. Alors, cette autre solution, c'est une turbinoplastie. Vous pouvez nous expliquer ce que c'est, Laura ?
Alors en fait, c'est par radiofréquence. C'est une opération qui va durer 15 minutes,
oui.
Qui est censée, qui n'est pas censée détruire, mais qui est censée
diminuer.
Diminuer, voilà, diminuer. Les cloisons, en fait, pour pouvoir que ça se débouche et qu'ils puissent respirer de nouveau.
Mmh.
Ou alors, du coup, voilà, il y avait l'autre option qu'un autre médecin lui proposait, mais il était vraiment pas pour du tout lui refaire ça. Donc, Charlie voit ce médecin, sachant qu'il ne l'a pas vu avant. Il a juste été envoyé par un collègue, donc il est arrivé le jour de l'opération sans l'avoir vu avant, sans avoir eu de pré-consultation ou quoi que ce soit.
D'accord.
Voilà, donc l'opération dure 15 minutes pour faire cette réduction et du coup, pas d'arrêt de travail. Donc Charlie se dit, voilà, je fais le matin et le lendemain, je repars travailler, il n'y a pas de problème. Quoi.
Ah, oui, cette opération, elle vise à réduire l'épaisseur de la muqueuse, hein,
voilà.
Des cornets
et
du
non
nez.
Non, la cloison.
Non, la cloison. Donc là, on touche à un endroit très sensible, hein, les muqueuses qu'il y a dans le nez.
Oui.
C'est-à-dire que si on se loupe, il n'y a pas de rattrapage possible, là.
Voilà.
Comment elle se passe, cette opération ?
Donc, Charlie lui demande bien, du coup, au médecin, s'il ne lui enlève pas beaucoup de cornets.
Mmh.
Le médecin lui dit que non, il va juste résorber l'intérieur de la muqueuse pour de faire en sorte que l'air puisse passer correctement sans abîmer quoi que ce soit. Donc Charlie repart après l'opération. Il a le nez qui saigne, mais en soi rien n'était
rien
n'était dramatique.
Ouais.
Voilà, c'est ça. Et donc une semaine après, donc Charlie n'avait pas d'amélioration au niveau de cette opération. C'était un mois à peu près qu'il fallait pour sentir les bénéfices de celle-ci. Et du coup, Charlie, suite à ça, commence à avoir de fortes douleurs au cœur qui vont commencer, des grosses palpitations, des pointes au cœur. Il disait qu'il avait l'impression que son cœur allait s'arrêter. Et sur le moment, voilà, il avait pas fait le lien. Donc il a eu un rhume après. Donc ce rhume lui a permis d'avoir l'humidité dans le nez qu'il n'avait plus.
Oui.
Qu'il n'avait plus, qu'il ressentait pas en fait avant. Et ensuite, début janvier, ça a été la catastrophe. Il a commencé à aller vraiment mal, de plus en plus mal. Il va voir cette ORL qui lui dit que non, tout va bien, les cloisons vont bien, ça guérit bien. Charlie a essayé beaucoup, il se demandait ce qu'il pouvait avoir. Il a fait des examens au niveau gastro, tout allait bien. La médecin avait vraiment fait un bon suivi à ce niveau-là. Et il n'y avait absolument rien d'autre qui était arrivé là, en fait, qui pouvait donner toutes ces sensations qu'il commençait à avoir.
Charlie s'était renseigné beaucoup sur le nez, hein, tout ce qui tournait autour des maladies du nez. Et il avait lu des témoignages, me semble-t-il, sur les victimes du syndrome du nez vide suite à des opérations et de ce type.
Oui.
Ça ne l'a pas freiné d'avoir lu ça, quand même.
En fait, il a pensé, sachant que c'était un jeune médecin qui sortait de l'hôpital, il a pensé que clairement il était au courant des risques de cette turbinoplastie par radiofréquence.
Mm-hmm.
Et il a fait confiance. Il a fait confiance en se disant que il y avait à la base, ils estimaient 1 à 3%, donc ça restait minime. Et si ça avait pu être autrement.
Bon, alors, en janvier 2023, les complications s'accentuent.
Oui.
son état empire, et il vous dit qu'il sent beaucoup trop d'air qui s'engouffre dans son nez. Ça veut dire quoi? Que son nez a fini par se déboucher complètement?
Bah là, du coup, il y a l'air qui rentre directement dans sa gorge.
D'accord, ça veut dire que là, il n'y a plus du tout... les muqueuses ont sans doute été trop réduites.
Voilà.
Et là, il n'y a même plus de protection quand quand on a un nez qui fonctionne bien, il y a une espèce de filtre qui fait que, je ne sais pas comment ça s'appelle, hein, mais que l'air ne s'engouffre pas dans notre nez.
Voilà, là, ça s'engouffre complètement. Et quand on a pu voir le médecin de Paris, il nous a expliqué que c'est comme si on vivait en apnée.
Ah, d'accord.
Constamment. Cette sensation de vivre en apnée.
Donc cette sensation du verre vide, du nez vide, pardon, c'est le fait d'avoir que de l'air dans le nez, en fait, trop d'air dans le nez, c'est ça?
Oui, voilà, c'est ça. C'est une sensation qui fait que vous étouffez, en fait, vous avez l'air qui arrive d'un coup, et c'est beaucoup trop, il n'y a plus rien qui stoppe cet air.
Ouais.
Donc ce qui fait que ça donne d'autres symptômes derrière, parce que le corps se fatigue beaucoup plus. Quand quelque chose ne fonctionne pas correctement.
Mmh. Et donc, ça a quelles conséquences sur lui? À nouveau, ce sont des réveils nocturnes où il a l'impression d'étouffer, je crois. Hein.
Oui, voilà, c'est ça. Et sommeil superficiel, où il a l'impression de rêver complètement toute la nuit.
Oui.
Il a une augmentation du rythme cardiaque. Perte de mémoire, impossibilité de se concentrer, palpitations au cœur, comme je l'ai dit tout à l'heure, maux de tête constants, problèmes digestifs. Et en fait, là, on parle de mots sur papier, mais on a vu mon petit frère se détruire complètement.
Mmh. Oui, il vous dit que c'est une sensation inexplicable. Parce que il a écrit quelque chose, ou il vous a dit quelque chose pour que vous ayez retenu toutes ces citations que vous avez envoyées à ma collaboratrice.
Oui, oui.
Il a écrit quoi? Comme un journal intime, c'est ça?
Non, il nous a laissé un rapport de 7 pages sur cette maladie.
D'accord.
Parce que Charlie veut que ça n'arrive plus à personne.
D'accord. Donc il vous a écrit dans ces 7 pages, c'est une sensation inexplicable pour celui qui ne l'a pas vécu. La sensation d'être en permanence dans un rêve qui ne me quittera plus jamais. Un mauvais rêve, là. Un cauchemar, même.
Oui. Un enfer sur terre, comme il a dit.
Mais oui. Votre maman dit que Charlie lui racontait qu'il avait le cœur qui battait très fort. En fait, c'est quoi? C'était la peur de s'étouffer avec l'air. C'était ces étouffements qui lui provoquaient, enfin, ce syndrome du nez vide, hein, justement, qui lui provoquait ces battements.
En fait, je pense qu'on peut même pas l'expliquer nous-mêmes. Enfin. Tant qu'on ne peut pas avoir vécu quelque chose comme ça, je pense que c'est inexplicable. Et je pense à toutes ces personnes qui le vivent. Enfin, je pense que c'est vraiment horrible à vivre.
Mmh. Est-ce que...
Se voir diminuer à petit feu comme ça, c'est...
Je me doute. À ce moment-là, est-ce qu'il a eu l'idée, quand il avait trop d'air qui passait, est-ce qu'il a eu l'idée de se reboucher le nez de temps en temps avec des bouchons? Est-ce qu'il a utilisé l'inverse?
Oui. Ouais. Oui, il a essayé des aérateurs de nez, il a essayé des cotons mouillés dans le fond du nez, ça fonctionnait pas. On a essayé, on a été voir un médecin spécialisé dans le syndrome du nez vide à Paris, qui a donc du coup détecté vraiment que Charlie avait 50% des cornées détruites.
D'accord.
Et il lui a proposé trois solutions.
Oui.
La première, c'était des vitamines à prendre en espérant que les cloisons se refassent.
Mm-hmm.
Charlie avait déjà regardé avant et avait déjà commencé ce traitement et ça n'avait pas fonctionné.
Oui.
La seconde, c'était une injection de PRP. Donc, je suis pas médecin, mais grosso modo, on vous prend du sang, on le sépare et on prend ce qu'on a besoin pour le réinjecter, pour refaire comme recréer, pour redonner du volume à la cloison.
Oui.
Et la troisième, c'était des implants de BIOS. C'est des os en poudre qui viennent recréer pour remettre niveau des cloisons.
Mm-hmm.
Donc Charlie choisit la solution du PRP. Et cette solution n'a pas fonctionné.
D'accord. Elle n'a à nouveau pas fonctionné. En fait, il est retourné voir aussi l'ORL qu'il avait opéré, qui lui parlait. Et il lui parle du syndrome du nez vide. Le médecin, lui répond que sa muqueuse a très bien cicatrisé. Pour lui, il n'y a aucun problème.
Oui, pour lui, il n'y a aucun problème. Mm-hmm. Aucun remords, aucun... rien.
D'accord. Il connaissait quand même ce syndrome du nez vide, cet ORL qu'il a opéré.
Alors, on a pu avoir... on a été à l'ordre des médecins.
Oui.
Et en fait, on a eu ce rendez-vous avec ce médecin. Et c'est pas, en fait, on peut clairement pas faire grand-chose parce que Charlie s'est fait opérer le 6 décembre 2022 et la loi de l'HARS sortait le 15 décembre 2022. Donc, soit 9 jours après.
La loi HARS, voilà. C'est quoi cette loi?
C'est la Haute Autorité de Santé.
Qui interdisait ce type de...
Pas interdit, mais en disant qu'il fallait faire de plus en plus attention à cette opération.
Ah oui, fallait encadrer cette opération.
Voilà, qu'il y avait de plus en plus de problèmes de syndrome du nez vide, parce que je pense qu'on est arrivé à presque 20% de cas, donc c'est énorme. Mmh. Alors d'aujourd'hui, ça paraît énorme. Donc du coup,
Il vaut mieux pas faire ce type de... Enfin, quand je vous écoute, il vaut mieux éviter ce type de d'opération qui semble ne pas être encore tout à fait maîtrisée. Quand on voit ce que ça a donné sur votre frère, et les conséquences que cela a eu sur lui, elles sont dramatiques. Il a enfin avoué en 2023, le 17 octobre 2023, cet ORL qui a opéré votre frère, il a admis qu'il avait bel et bien un syndrome du nez vide.
Oui. Oui, en ayant le rapport du médecin qu'on avait vu à Paris.
D'accord. Alors, il va lui conseiller d'aller voir un psychologue.
Oui, parce que c'est la solution d'aujourd'hui. On vous rend malade et on vous propose d'aller voir un psychologue et de vous mettre sous antidépresseur parce que c'est dans votre tête que ça va pas. Mmh.
Est-ce que de votre point de vue, ce syndrome du nez vide, qui visiblement tape sur le sommeil, fatigue énormément, peut créer un déséquilibre psychique, ou en tout cas des angoisses qui peuvent amplifier le ressenti que votre frère pouvait avoir?
Comme disait mon frère, c'était la maladie qui le rendait anxieux. C'est pas lui, il n'était pas, mon frère n'a jamais été mal ou quoi que ce soit. Il n'était pas du tout comme ça. Et le fait de plus, je pense que chaque personne humaine, vous lui enlevez du sommeil, vous lui enlevez cette façon de respirer correctement, vous lui retirez tout ce qui peut, parce que du coup mon frère le disait, il réfléchissait plus normalement. Vous enlevez tout ça en être humain, à un moment donné, ça flanche.
Oui, j'ai du mal et je pense que c'est la même chose pour toutes celles et ceux qui écoutent, mais en même temps en concevant complètement que l'effet doit être terrible.
Oui.
Mais on a du mal à imaginer ce syndrome du nez vide si on ne l'a pas vécu, voyez, soi-même. Mais visiblement, ça a énormément impacté la santé de votre frère et son moral. Si bien que 2 mois et demi plus tard, c'est-à-dire en janvier 2024, Charlie va mettre fin à ses jours en vous laissant un mot.
Oui.
Dans les dernières lignes de son récit, il lance cet appel: interdisez les opérations sur les cornées, sauf cas de force majeure, comme un cancer. C'est finalement un geste terrible que Charlie va faire, mais là on sent qu'il n'en peut plus de tout ça.
Non, pardon.
Je vous en prie. Sandrine, avec vos sœurs Laura et Mélanie, vous avez décidé de reprendre le flambeau transmis par votre frère et d'interpeller le grand public sur ce syndrome et les risques des turbinoplasties, que l'histoire de Charlie atteigne le plus grand nombre de personnes et oui, permettre d'interdire cette opération chirurgicale, en tout cas de mettre en garde sur cette opération chirurgicale. Je pense que c'est assez fou ce que vous avez vécu. Vous ne vous attendiez absolument pas à vous n'avez pas vu les choses venir. Vous n'avez pas ressenti qu'il était au bout, Charlie?
Si, on l'a senti, mais en fait, on avait toujours espoir que ça fonctionne.
Oui.
Et qu'il aille mieux. C'était... Quand vous voyez les personnes qui vous sont plus chères se détruire petit à petit.
Oui, oui.
Il avait perdu goût à tout. Il ne voulait plus voir personne, il s'enfermait, il avait arrêté de travailler.
Ah, il avait arrêté de travailler, d'accord.
Oui, et en fait, juste avant... Je pense que ça a été un élément déclencheur. Il a eu rendez-vous avec la Sécu pour qui lui ont demandé de reprendre le travail et Charlie pouvait pas reprendre le travail. Et voilà. Ça a été,
Est-ce que de votre point de vue, Charlie a commencé, est tombé dans une grave dépression?
Lui, psychologiquement, non, mais physiquement, il pouvait plus, son corps pouvait plus.
D'accord. Votre maman l'a beaucoup accompagné, hein, je crois. Il ne lui a jamais fait part de parfois ses envies qu'il traversait d'arrêter tout, de mettre fin à ses jours.
Bah, il y a eu quelques mots qui ont été difficiles.
Oui.
Mais pas clairement dit. Même moi, une fois, il m'avait dit, moi, je continuais. Comme ça, c'est pas possible pour moi.
C'est bien évidemment, on comprend combien cela doit être désagréable. Vous savez, je tourne en ce moment un film sur le suicide, et je suis particulièrement concerné par cette question, personnellement concerné.
D'accord.
Et c'est vrai qu'on ne croit jamais. On ne croit jamais que les êtres qu'on aime et qui nous aiment peuvent finalement faire ce geste-là, sans doute dans un état de désespoir total. Vous aviez ressenti, vous, Laura, qu'il était désespéré par rapport à cette...
Ouais. Oui, il était à bout. Mmh. Oui. Il a tenu... Je pense qu'il a...
Il a tenu très longtemps.
Tenu un maximum pour maman, pour ses filles, pour nous.
Ben oui, oui.
Il souffrait trop.
Ben oui. Mm-hmm. C'est fou qu'aucun médecin, à une époque où il y a tellement de choses, que n'y ait pas eu un médecin qui puisse l'aider, lui installer quelque chose dans le nez qui pouvait un peu réduire ce syndrome, en fait. Vous avez regardé un petit peu comment il était combattu ou soigné, ce syndrome du Néville?
Ouais, mais malheureusement, en France, dans le monde entier, c'est encore en expérimentation. Il y en a qui essayent les injections de graisse, il y a plusieurs essais. Je parle, il y a un groupe sur Facebook avec des personnes, et j'ai parlé avec quelques personnes.
Oui.
Et j'ai l'impression qu'en fait... la guérison est quasiment impossible. Il faut que... C'est pour ça qu'il faut qu'ils arrêtent ça. Il faut que les gens fassent attention à leur ORL, à ce qu'on leur propose comme solution. Mais il ne faut plus que ça arrive, des choses comme ça. Les gens n'ont pas le droit de vivre des choses comme ça à l'heure d'aujourd'hui. Ben pour une opération qui a duré 15 minutes.
Quand vous évoquez... une turbinoplastie qui dure 15 minutes, il y a une intervention qui peut faire autant de dégâts en 15 minutes.
Voilà.
On imagine combien les ustensiles utilisés doivent être puissants pour réduire la muqueuse. Ça peut être, visiblement
détruire,
en tout cas, ça...
détruire la.
Oui, c'est la détruire. Bah, bien évidemment,
détruire. Ça a été détruit à 50%.
Oui. Ah oui. Quel âge avait-il exactement? Il avait 30, 31 ans?
Charlie, oui.
31 ans, mon Dieu.
Oui.
Non. Vous avez créé une association? Vous avez créé quelque chose?
Pour l'instant, non. C'est encore... ça fera 5 mois que Charlie est parti.
Oui.
Donc, en fait, nous, notre but, c'est plutôt le côté médiatisation à l'heure d'aujourd'hui pour que les gens... soyez au maximum au courant. et ne fassent pas, qu'ils fassent bien attention à ce qu'ils font. Oui. Alors RL, qu'ils aient bien confiance et qu'ils soient sûrs de des gestes qu'ils veulent faire, quoi. Parce que c'est surtout ça qu'on veut, c'est que les gens se protègent.
Ben oui, oui. Si vous qui nous écoutez, vous avez des problèmes d'ORL, hein, en tout cas liés au nez, aux oui. oreilles, bon, vraiment, j'espère que vous aurez bien entendu et analysé le témoignage de Laura et la mésaventure tragique de Charlie, parce que tout ça part d'un coup de poing dans le nez pris à la boxe. C'est fou. C'est fou.
Oui.
Et donc, sans doute, ce coup de poing a-t-il endommagé, en tout cas suffisamment, le nez de Charlie pour que il ne puisse jamais trouver la paix, hein, en fait. C'est ce qui s'est passé, malheureusement. Malheureusement. Écoutez, merci beaucoup, hein, pour votre témoignage ce soir sur l'antenne d'Europe 1. Laura, peut-être allez-vous créer une page Instagram, quelque chose, en tout cas un support, parce que, comme vous le dites,